pour illustrer un petit peu comment ça se passe. De façon très schématique. Donc en fait, notre vie, toute notre vie spirituelle, c'est ce cercle avec ce point au centre. Hein, ce point au centre, alors bon, c'est une représentation symbolique, hein, on peut en prendre une autre, mais j'en ai une. Ce point au centre, ça, disons que ça représente justement notre unité, cette unité que nous sommes, qui est tout ce qui est, et qui, lorsqu'elle se manifeste, va se manifester dans la multiplicité de 360 degrés, hein, qui va représenter, voilà, nous aujourd'hui. 360 degrés, une infinité. Au centre, on se rejoint tous. Ce qu'on va appeler l'éveil de nos jours, ce qui est souvent appelé l'éveil, c'est alors que je suis en train de me prendre pour mes multiples aspects sur ce cercle qui va représenter ce qu'on appelle habituellement la personnalité, que certains appellent l'ego, que j'appelle l'enfant-moi. Je l'appelle l'enfant-moi parce que moi, quand je parle d'un enfant, j'ai tout de suite de la tendresse qui vient. Et que je savais que quand je parlais à une époque de mon ego, c'était tout de suite mon ego dans ta gueule. C'est ce qui m'empêche de réveiller l'ego. L'enfant, moi, tout de suite, avec un enfant, j'attends pas d'un enfant qui fonctionne autrement. Donc je vais pouvoir accueillir son innocence, je vais pouvoir éduquer son ignorance, mais je vais avoir de la tendresse. Et moi, mon but dans la vie, parce qu'il y a des tas d'enseignants spirituels, il y a des tas de voies spirituelles, il y a des tas de voies tout court, hein. Pour moi, l'important, c'est de se demander qu'est-ce que je veux vivre. Moi, quand je vois certains, entre guillemets, éveillés, je les regarde, je me dis, j'ai pas envie d'être ça, du tout. Pas envie d'avoir cette tête. Moi, j'aime deux choses dans la vie. J'aime rire et j'aime la profondeur. S'il n'y a que le rire, pour moi, c'est superficiel, à un moment, je m'ennuie. S'il n'y a que la profondeur, à un moment, je m'emmerde. Donc, j'ai besoin qu'il y ait autant de légèreté qu'il y a de profondeur. C'est ce qui, pour moi, donne le contraste qui me fait goûter l'intensité que j'aime goûter. J'adore goûter l'intensité. J'aime l'intensité. Moi, j'ai fait dans ma jeunesse, quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait beaucoup de sports de combat, j'ai fait beaucoup de choses avec le corps. J'adore l'intensité. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Moi, j'ai envie de vivre la légèreté et la profondeur. Et ce qui pour moi est le liant de tout ça, c'est la tendresse. C'est pas l'élévation spirituelle, c'est pas je ne sais quoi. Moi, ce que je cherche à vivre au quotidien, ma mesure, c'est combien je suis tendre avec moi. Combien je suis tendre avec moi. Quand hier, je me vois sur le parking et d'un seul coup, je vois la roue. Donc, je ne sais pas, tu m'as dit que tu as perdu une roue. Tu as perdu une roue. Pourquoi j'ai perdu une roue? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais perdu de roue. J'ai 49 ans, je n'ai jamais perdu de roue. Et là, maintenant, j'ai perdu une roue. Et là, je suis enragée. Et là, simultanément, arrivent les deux. Donc, il se passe toujours des choses. Hein. Donc, la voix qui arrive et qui dit bah, chier, voilà, il va aller se foutu. Hein. L'autre qui arrive tout de suite qui dit oui, Plus l'autre qui arrive, qui est le sur-sur-chef de celui-là, qui lui dit que lui ne devrait pas être en train de me dire ça, puisqu'il devrait être en train de m'accueillir avec tendresse. Donc tu as toujours le sur-sur-sur qui voit ce qui se passe, mais on me demande souvent, mais comment on reconnaît si c'est la voix de la conscience qui parle en nous? Comment on reconnaît si c'est le soi? Mais c'est simple, le soi est tendre. C'est tout simple. C'est pas qu'est-ce que ça vous raconte, c'est comment ça vous parle. Est-ce que c'est en train de vous maltraiter? Si ça vous maltraite, mais quoi que ce soit, quelle que soit la couleur de son habit, la hauteur de sa chaise, ou quoi que ce soit, dégagez, hein, dégagez-le vite. Hein. Pour aucun prétexte au monde, on a à vous parler mal, à vous traiter mal, sauf si vous avez l'expérience, parce que c'est quelqu'un que vous avez choisi pour guide, qu'il est capable, à un moment donné, parce que c'est bon pour vous, parce que vous avez juste besoin des fois qu'on vous fasse juste ça pour que vous sentiez quelque chose, mais que c'est vraiment, et qu'aussitôt il y a la douceur qui est là, mais que c'est pas on vous maltraite. Moi je reçois souvent des mails de personnes qui me disent je travaille avec un lama, je travaille avec un tel, je travaille avec un tel. On est maltraité, il n'y a pas de douceur, on nous dit que c'est normal, qu'on est des mauvais disciples si on n'accepte pas. ça va pas ou quoi? La douceur. Donc moi, quand je suis sur mon parking et que je vois toute la clique qui démarre en 5 secondes avec la valise pétée au milieu, qu'est-ce qui se passe? Mais dans l'instant premier, dans mon tour de cercle de toutes mes parts, qu'est-ce qui se passe dans l'instant premier? Ben, y a de l'agacement, et puis il y a tout ce que je viens de vous décrire, et je suis au courant qu'il est normal que ça se passe. Parce que dans l'instant premier, de ce que moi j'appelle la matrice, c'est-à-dire ce qui constitue en fait l'intermédiaire entre le soi, entre cet impersonnel qui nous anime et sa manifestation, entre les deux, il y a une matrice qui crée en fait, qui est constituée de tout notre conditionnement depuis notre naissance et qui recrée en permanence des pensées, des sensations, des émotions. Et je n'ai pas de pouvoir, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je n'ai pas de pouvoir sur l'instant premier de ce qui est créé par ma matrice. Là, la seconde où tu m'annonces, tiens, j'ai un paperboard, moi, la première seconde, c'est je suis contrariée, par exemple. Avant de dire, oh, c'est super, il a encore trouvé comment faire un miracle depuis hier, il en a juste fait 50. Merci. Mais juste à la seconde, j'ai une part qui est contrariée, parce que pourquoi? Ça change. Et quelque chose en nous est toujours contrarié quand ça change. Vous avez remarqué? Moi, avant, si j'étais à votre place, je viens pour un truc comme ici ou chez Cadre du Monde, mais je dors là. Ah oui, non, moi je suis. Moi, il y a 30 ans, pour voir Yves Montand à Nice, je n'ai pas honte. Pour voir Yves Montand à Nice, j'étais là à 2 heures du mat, quoi. Oui, ben à 4 heures, on était 600. Je ne sais pas si c'est une vraie fan. Et je peux vous dire qu'une fois que j'avais trouvé ma place. Il y a quelque chose en nous, on est dans un organisme qui est un organisme de survie. Le corps est un organisme de survie. On va mourir, on est au courant. On est un organisme avec une date de péremption, on ne sait pas où elle est d'ailleurs, mais il y en a une. On est en train de se désagréger. On se désagrège en ce moment. C'est inéluctable en ce moment même où je vous parle. Et vous aussi d'ailleurs. Tous. C'est incroyable. On est en train de se désagréger. Donc vous comprenez qu'est-ce qui peut avoir du sens dans tout ça? Me souvenir que je suis la vie et que ça ne va jamais mourir. Mais bien sûr ça va mourir. Des conneries du genre, non, mais je ne mourrai jamais. Mais pour qui tu te prends? Mais bien sûr, l'espace dans lequel tout ça apparaît est la vie, oui. Alors si tu veux, tu peux t'identifier à la vie, si tu veux plus souffrir, peut-être. Mais moi, est-ce que ce que je veux, c'est ne plus souffrir, finalement? Est-ce que ce que je veux, c'est ne plus rien ressentir? Moi, je veux juste éviter la souffrance évitable. Il y en a une qui est évitable. C'est celle qui consiste à dire non à ce qui est. Ça, je veux bien éviter. Mais ensuite, il y a une douleur, la douleur simple qui arrive. Dans l'instant premier de ma matrice, tout ce qui arrive, arrive. Donc on me propose quelque chose de différent, en premier ça fait et ensuite ça dit trouver quelque chose, et ensuite il y a autre chose qui arrive. Et au milieu il y a la voix qui dit mais t'es pas cool de pas être contente, tu devrais être contente puisqu'il a trouvé une solution. Vous voyez toutes ces voix. C'est normal, c'est les voix de l'enfant moi. Alors quand on est dans un chemin spirituel, parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est peut-être pas juste parce que je fais des vidéos comiques. Mais ça serait parfait, hein, aussi. Hein. Ma seule inquiétude, c'est est-ce que vous allez vous ennuyer. Donc après, le reste. Si vous avez une démarche qu'on qualifie de spirituelle, c'est vous cherchez, il y a quelque chose en vous qui cherche à revenir à ce centre. Et qu'est-ce qui cherche à revenir au centre? C'est le centre. La vie s'appelle à revenir à elle-même. Elle se met au monde dans le multiple. Et il y a une forme de chronologie qui est toute simple, il suffit de compter jusqu'à 3. Donc 1, dans notre chronologie, il y a une chronologie historique et une chronologie réelle. La chronologie historique, c'est 1. Au commencement était, on nous dit, au commencement était le Tao. Hein. Et puis, du 1 naquit le 2, du 2 naquit le 3, du 3 naquit la multitude. Au commencement, il y a l'unité. Ça, c'est la chronologie historique. Cette unité, elle veut se manifester dans le multiple. Et une fois qu'elle s'est manifestée dans le multiple, elle veut goûter quelque chose de spécifique qui est ce dont j'ai parlé hier soir, qui est comment je peux être unique. Comment moi, l'un qui est tout ce qui est, je peux goûter d'être ceci en particulier en sachant que je suis cela. Ça, c'est l'ultime. pour moi. Ça, c'est l'éveil, l'éveil intégré, ce que j'appelle la réalisation. Alors ensuite, pour nous, la chronologie concrète, c'est 1, je me prends pour un point du cercle. Je me prends pour Isabelle, je me prends pour Marie-Laure, je me prends pour Sandra, etc. Je me prends pour un quelqu'un, je me prends pour un enfant moi. J'ai oublié ce que tous les Japonais savent. Au Japon, une autre façon de nommer le peuple japonais, c'est Kami no Ko. Kami, c'est les dieux, et Ko, c'est l'enfant. Donc les Japonais, un autre nom de ce peuple, c'est les enfants des dieux. C'est dans la culture, on se souvient, je suis le fils du Père. Et quand Jésus dit la phrase la plus banale pour un être qui est éveillé à sa nature, je suis le fils unique. Ça, c'est un être qui a réalisé complètement son éveil. Je suis le fils de Dieu, c'est la première étape, c'est l'éveil. Je me souviens de qui je suis l'enfant. Ah oui, c'est vrai. Si papa c'est Dieu, donc je suis fils de Dieu. Si mon parent c'est cet impersonnel, alors ma personnalité devient un enfant moi, et puis un ego que j'ai à dégager, et qui est un empêcheur de s'éveiller en rang. Et une fois que je me souviens de qui je suis l'enfant, maintenant je me souviens le programme. Le programme pour chacun de nous, c'est d'être le fils ou la fille unique de la divinité que nous sommes. Vous avez vu qu'on n'a pas la même tête, mais ça me fascine. Moi, tous les jours, je me dis, mais comment on peut être aussi différent? Et comment on peut avoir une idée de s'habiller comme ça? Moi, j'aurais jamais idée de m'habiller comme ça. Comment c'est possible? On est vraiment différents. Et c'est tellement magnifique de voir comment on peut être aussi différent et unique. Et vous comprenez bien que pour moi, un des drames, bon, c'est un mini-drame, hein, à côté de ce qui se passe dans le monde par ailleurs, mais dans nos milieux autorisés spirituels, je trouve quand même que c'est un drame de voir des êtres uniques chercher à se fondre dans une impersonnalité en gommant leur personnalité. Vous avez sûrement noté, peut-être. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Il y a un film qui est là, devant vous, sous vos yeux, et que vous allez éviter vraiment avec une grâce parfaite. Vous avez sûrement été dans des endroits où quelqu'un ou plusieurs parlent, vous savez, ce genre de satsang où le jeu est interdit. Donc, cela est vu, cela est compris, quelque chose a été perçu par, mais c'est comme on va jouer à ni oui ni non. Là, c'est pas de jeu. Il n'y a pas de jeu dans les phrases. Il n'y a pas moi. Hein. Ceci a été perçu, ceci a été entendu, blablabla. On enlève le moi. Ben moi, je suis là. Hein. Non, mais moi, j'ai vu dans ce genre d'endroit, je sens que je suis très mal. Je vais très mal. Parce que je a entendu qu'il ne doit pas être là. Et que tant que je sera là, eh ben, l'éveil ne sera pas là. Donc, il y en a un trop. Alors après, le premier de la classe, qui est le jeu spirituel, il essaye de virer ce qu'il croit être le jeu égotique sans se rendre compte que lui fait partie du jeu, dans tous les sens du terme. Et là, on commence à devenir schizo-spirituel. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est l'enfer. Donc dans le week-end, moi, ce que je vais vous proposer concrètement, je vous dis un petit peu maintenant comment va se passer ce week-end. Maintenant qu'on a vu 1, 2, 3, 1, 3, je ne l'ai pas dessiné, mais 3, c'est donc 1, c'est ce que nous sommes au quotidien. 2, alors 2, il y a deux formes de 2. Il y a le 2 qui nous frappe l'esprit, c'est-à-dire ce que racontent habituellement les éveillés contemporains. Genre Eckhart Tolle, je marche dans la rue et soudain je parle. Et là, on vous raconte une expérience d'unité qui nous fait vachement envie, d'autant plus que nous, on ne l'a pas vécu comme ça. Et donc, on bave. Voilà, moi je n'ai pas vécu, il a vécu, et maintenant il est tout éveillé, il m'en parle. Voilà. Ensuite on découvre qu'on nous dit bien que ce genre d'éveil ça ne se provoque pas, donc comme ça on bave encore plus. Voilà, moi je reçois des mails tous les jours qui me disent mais on fait comment pour être tiré à la loterie de l'éveil? Est-ce que si on met plusieurs tickets, on a plus de chances que, les Tibétains disent une phrase que j'aime beaucoup, ils disent l'éveil est un accident qui ne peut être provoqué. La pratique nous conduit au carrefour où cet accident a le plus de chances de se produire. Bon, enfin, moi, je me suis vu quand même pendant des années, en plein milieu du carrefour, comme ça. Éveillez-moi, éveillez-moi. Je me vois arriver un jour chez David, ceci. C'était très, très drôle en plus, parce qu'à l'époque, il habitait encore à Signé, et puis c'était une belle maison. avec une immense porte dans, au fond de son cloître, une grande porte en bois. Et moi, ce jour-là, j'étais désespérée. Je voulais qu'il m'éveille. Je venais de lire qu'il y avait certains grands maîtres hindous qui éveillaient leurs disciples. Je m'étais dit, putain, il fait chier, pourquoi il ne m'éveille pas? Attends, moi, je viens le voir toutes les trois semaines, j'arrête pas de bosser, je fais ça depuis 30 ans, ça suffit maintenant. Je mérite l'éveil. J'avais décidé. Et j'arrive ce jour-là en me disant, il faut qu'il m'ouvre la porte de l'éveil. Et j'arrive et ce jour-là, je sonne, il n'a jamais répondu. D'habitude, je sonnais, tout de suite, il arrivait, et là, je sonne. À la fin, je tambourinais à la porte. C'était délirant. Et finalement, David arrive et me dit, qu'est-ce que c'est que cette agitation? Je dis, mais David, je m'assois, puis j'étais toute à bout. Je dis, David, j'en peux plus, je souffre trop. Mais fais ce que tu veux, mais coupe-moi la tête, mais débarrasse-moi de cet ego qui me fait souffrir. Je dis, tu vois, je suis comme derrière la porte de l'éveil, comme tout à l'heure derrière ta porte, je tape, et rien ne s'ouvre, et j'en peux plus, j'ai besoin de ton soutien, tu es mon guide, et tout. Et là, il part de son rire. Si tu as entendu rire David, ça, à quoi ça ressemble. Donc, une cascade de montagnes cristallines qui ne s'arrête plus, un rire très très haut perché, comme ça, qui me désarçonne. Il éclate de rire, puis moi, comme toujours quand il rit, il me prend dans son rire. Donc je riais avec lui sans savoir même de quoi je riais, sans doute de moi, mais bon. Et bon, quand il a fini par rire, par s'arrêter, il me dit, écoute, il faut quand même que je te dise ce que je vois. Il me dit, et là, bon, comme toujours, il me prend dans son énergie, donc je voyais ce qu'il me montrait. Il me dit, tu vois, une plaine immense, comme un désert immense, il n'y a rien. Tu es là, et au milieu de cette plaine immense et déserte, il y a une porte. Et tu es collé derrière la porte, et tu es en train de taper à la porte, et de me dire, David, David, je suis enfermé, je t'en supplie, libère-moi, ouvre cette porte. Bon, tu veux dire que je pourrais regarder ailleurs que la porte? Oui, oui, je crois que si tu lâchais la porte de l'éveil, ça te détendrait un peu. Hein. D'accord. Alors tous les jours, je vois des personnes qui sont collées à la porte de l'éveil. J'ai une infinie tendresse parce que j'ai tellement abîmé mon nez à force de le frotter à cette porte. Donc, je vous disais, c'est le premier cas, c'est l'éveil qui vous surprend. Il y a un type d'expérience directe de notre nature qui vous tombe dessus. Voilà, comme ça m'est tombé plusieurs fois en 2009, comme ça m'est tombé encore plus tard, en 2010, en 2011, comme ça m'est tombé cette année aussi en février. Je racontais hier soir mon éveil du sucre récent, où soudain quelque chose survient. Et c'est pas vous qui faites ça. Donc ça, on n'y peut rien. Donc là, on peut se détendre, déjà. Ça, c'est réglé. Non, mais il n'y a pas besoin d'attendre. Tu ne sais pas quand ça te tombe dessus, peut-être jamais, peut-être tu peux rien. Et puis ensuite, il y a des petites pratiques. Il y a des petits mouvements de conscience. On va en partager ensemble ce week-end. Il y a des petits mouvements pour se retourner, pour faire retour, pour se tourner vers ce qui perçoit. Ça va nous donner le moyen, non pas de changer ce qui se passe à l'avant-plan, mais pour un instant, de goûter les qualités de ce que nous sommes à l'arrière-plan, de goûter la qualité de ce qui est toujours présent. Ça va juste rendre un petit peu plus doux ce qui se passe devant, mais qu'on soit clair, ça ne va pas le supprimer. Je vais rentrer à l'hôtel et je peux vous assurer qu'à chaque fois que je vais voir la roulette qui est à côté que de la valise, je vais avoir un énervement qui arrive. Et c'est OK. J'ai cessé d'attendre que quoi que ce soit change dans l'enfant moi. Et en même temps, je ne suis pas en train de dire ce que disent certains lamas tibétains qui disent « Aucune importance si la personnalité ne change pas. Ce qui compte, c'est la conscience éveillée. On se fout de la personnalité. » Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire que dans l'instant premier, ce qui survient dans l'instant premier, nous n'avons pas la main dessus. Mais nous avons la main dans l'instant second. Là, il y a un petit moment où je vais utiliser ce qui est une de mes clés sur laquelle on reviendra, qui est qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Point. Qu'est-ce qui est, la valise est pétée. Qu'est-ce que je veux, qu'elle soit plus pétée. Qu'est-ce que je fais. Eh bien, je vais la bien réparer. Alors, bien sûr, une part de moi attend des miracles. J'aimerais que je sache recoller les valises à distance ou que la valise ne soit jamais cassée. Une part de moi aimerait que je ne me sois jamais énervée, que je reste zen en permanence. La valise se pète.
Une valise a été pétée. Hein? Eh oui. Dans certains milieux de l'intelligentsia de l'éveil, une valise a été pétée et personne n'est jamais affecté. Et pourquoi quelqu'un serait affecté par une valise qui est pétée? Parce qu'il n'y a personne ici. Ben moi, je veux qu'il y ait quelqu'un ici, parce que sinon, je ne peux plus être en relation avec vous. Moi, ça m'intéresse beaucoup qu'il y ait quelqu'un ici, puis que ça m'intéresse beaucoup qu'il y ait quelqu'un ici et ici et ici. Sinon, on va juste goûter, on va s'agaper ensemble. Voilà. On va se... Mais ça, on n'a pas besoin d'être incarné pour faire ça, vous comprenez? On n'a pas besoin. Si l'unité veut se goûter en tant qu'unité, elle n'a pas besoin de se mettre au monde, elle n'a pas besoin de créer tous ces magnifiques enfants-moi que nous sommes. Elle n'a pas besoin de faire ça. Pourquoi on est là, tous beaux comme on est, la magnifique de nos différences, si c'est pas pour se découvrir, se détester, se préférer, faire tout ce qu'on fait, toutes nos histoires. Et goûter ce miracle, que qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va rester quand tout ça se sera désintégré? Mais rien. Mais rien. Mais rien. Mais rien du tout. Tout ce que j'aurais compris. 40 ans, 50 ans, 60 ans du spirituel, mais autre, qu'est-ce qui va rester?
Rien.
C'est gay. Non, mais ça détend. Il n'y a rien resté. Qu'est-ce que je vais laisser à la postérité? Mais rien. Mais je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on goûte maintenant. C'est vos sourires. Peut-être qu'on va pleurer, j'espère. J'adore pleurer, j'aime tellement pleurer. Pour moi, quand on pleure, dans Dune, à une époque, j'étais folle de science-fiction. Quand j'étais jeune, je lisais spiritualité et science-fiction. Et donc, évidemment, Dune, hein, toute la méga-série. Et dans Dune, donc, il y a cette planète où il n'y a pas d'eau. Quand on pleure, ils ont des petites choses qui recueillent les larmes. Parce qu'ensuite, ils boivent, ça, ils récupèrent tous les liquides. Et pleurer dans Dune, c'est un acte, c'est une offrande. Parce qu'on dit, je t'offre mon eau de vie. Et moi, je lisais ça, j'avais 8 ans, je disais, waouh, c'est beau. Pleurer, c'est offrir son eau de vie à quelqu'un. Et j'ai remarqué aujourd'hui que dès que je suis... là, par exemple, je peux pleurer à la seconde, si je reste là où je suis. C'est dès que nous sommes connectés à cet endroit de... qui est cette croix, justement, cette rencontre entre la source, pas pour rien qu'on l'appelle la source. Quand on contacte la source... Il y a de l'eau, c'est logique. Donc, toutes les personnes qui m'écrivent en me disant « Je contrôle mal mes émotions. » Qu'est-ce que vous voulez contrôler? Ça va pas ou quoi? Pourquoi on voudrait contrôler? Parce que quand on pleure, c'est pas bien accueilli. Dès que vous pleurez, on dit « Non, mais c'est pas grave. Non, mais ça va aller. Non, mais rien. Si c'est grave, puisque je pleure, tu me dis quoi? Que je suis con ou quoi? Si je pleure. Hein? Donc quand je pleure, c'est qu'il y a une rencontre entre cette unité, ce divin en moi, et cet humain que je suis. Et je racontais récemment dans cette vidéo, quand j'avais vu ce petit éléphanteau là, avec sa trompe abîmée, là, que j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, mais toute une matinée, je ne me remettais pas de cet éléphanteau. Je ne me remettais pas. Et je courais sur mon elliptique à la maison, en pleurant. Et je goûtais de pleurer, je ne peux pas vous dire autrement, je savourais mon humanitude, je ne sais pas comment dire autrement. Je goûtais, mon cœur est brisé, mon cœur peut se briser. C'était bon de sentir ça. Maintenant, si je regarde cet éléphanteau et je vais avoir une compassion, mais qui ne pleure plus. Si je le regarde depuis l'espace où je suis l'éléphanteau et je suis, j'allais dire le bûcheron, c'est pas du tout un bûcheron, c'est un... braconnier, voilà. Le braconnier qui a mis un piège qui fait que cet éléphanteau un jour s'est pris la trompe dans un piège du braconnier et qu'en tirant il s'est abîmé toute la trompe. Il a un trou dans cette trompe en plein milieu. Mais si je suis dans l'espace, si je tourne mon attention vers l'espace où je suis tout cela, il n'y a plus de souffrance, évidemment. Mais pourquoi je me tournerais vers l'espace qui est tout cela ? Uniquement pour ne pas ressentir de haine pour le braconnier. C'est la seule raison. Mais je ne me tourne jamais vers cet espace où je suis tout ce qui est pour fuir mon émotion de l'avant-plan. Jamais. Or, ce que j'observe, c'est que tous les jours, on me demande des trucs pour moins pleurer, pour moins avoir mal. Je veux aller vers le Père pour moins souffrir en tant qu'enfant, moi. C'est pas à ça que ça sert de se tourner vers le Père. Se tourner vers le Père, c'est pour ne pas haïr les autres enfants, moi. C'est pour pouvoir rester en lien avec eux. C'est pour pouvoir accueillir la souffrance. C'est pour pouvoir accueillir la souffrance de mon enfant, moi, ou des autres enfants, moi. C'est jamais pour la fuir. C'est jamais pour la rejeter. Donc, et je finirai là-dessus avant de vous passer la parole, la troisième étape, la première étape, donc, c'est « je suis ce pourquoi je me prends ». La deuxième étape, c'est « que j'ai été absorbée ou que j'ai appris à faire retour ». Je découvre à un moment donné « ah, je ne suis pas que cet enfant, moi ». Je suis aussi cela qui s'anime dans tous les enfants, moi. Et j'en fais une expérience qui est directe, qui est sensorielle, qui est familière. C'est-à-dire que je sens que c'est tout ce que je vois, tout ce que je touche, c'est ma famille. Et puis, tout ça me permet ensuite de vivre que je suis unique. Et quand je goûte que je suis unique... J'avais un flotte vert. Allez, donc voilà, il était là. Quand je goûte que je suis unique, alors je vais pouvoir commencer à rayonner. Le rayonnement, c'est un rayon, mathématique, c'est ce qui part du centre et qui va vers la circonférence du cercle. Donc quand je rayonne, bon, ça peut faire une croix éventuellement. Mon observation, c'est que au début, on a du mal à rayonner dans tous les aspects. On garde quand même des préférences, des fois, pour le haut. On se fait des croix chrétiennes. La branche verticale est plus haute que la branche horizontale. Moi, je préfère quand même celle-ci. Bon, dans une de mes lignées druidiques, c'est la croix celte, quand c'est comme ça. C'est une croix à branche égale. Et mon observation, c'est qu'on grandit. La réalisation spirituelle, pour moi, comme ça, c'est des cercles qui vont croissant et où on s'équilibre. C'est-à-dire qu'à chaque grandissement spirituel, j'ai ensuite à voir comment je mets ça, comment ça s'incarne par plus de bienveillance, par plus de tendresse dans la relation à moi et dans la relation à l'autre. Grandir juste dans la verticale, c'est simple, il suffit de se retirer, on va dans un ashram, on va dans n'importe quel endroit où on fait que de la méditation toute la journée. Bon, il y a quand même les collègues d'ashram à gérer. Comme m'a dit quelqu'un une fois, mais pourquoi ils ne font pas des ashrams où on pourrait être tout seul avec le guide? Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les humains, c'est pénible. Il ne pourrait pas y avoir juste Dieu et moi, quoi, et le guide. On irait plus vite, m'a dit quelqu'un. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, on a notre cible. Et puis, j'ai terminé.